RFI, 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
À la une, cette annonce de François Bayrou suite à un comité interministériel sur le contrôle de l'immigration. La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ils sont exécutés. Plus largement, le Premier ministre annonce une plus grande militarisation des frontières. Au Salon de l'agriculture, 5 patrons de la grande distribution ont présenté ce mercredi des engagements censés aider le monde agricole. Mais le leader du secteur, Édouard Leclerc, n'était pas présent. L'Association nationale des industries alimentaires dénonce un énième coup de communication. Du football, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a été suspendu pour 15 matchs fermes. Il avait violemment mis en cause l'arbitrage lors de la défaite de son équipe à Auxerre.
24 heures en France.
À suivre également un reportage sur les légumineuses, les légumes secs, qui ont tout pour plaire. Ils permettent de revitaliser les sols, réduire les émissions de gaz à effet de serre et en plus, ils sont bons pour la santé. Et puis nous irons en Nouvelle-Calédonie où tous les groupes politiques indépendantistes et non-indépendantistes étaient réunis ce mercredi autour d'une même table avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
RFI.
La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ils sont exécutés. Annonce de François Bayrou après un comité interministériel cet après-midi à Matignon, consacré au contrôle de l'immigration. Les relations étaient déjà tendues entre les deux pays. Elles se sont encore dégradées après l'attaque de Mulhouse samedi dernier. Un Algérien en situation irrégulière est accusé d'avoir tué une personne et d'en avoir blessé plusieurs autres. À de nombreuses reprises, Alger avait refusé de reprendre son ressortissant. Raphaël Delvolvé.
Pour François Bayrou, l'Algérie a une responsabilité dans l'attentat de samedi dernier.
Les victimes que nous avons connues à Mulhouse, elles sont les victimes directes du refus d'application de ces accords.
Un drame s'ajoutant selon lui à une longue liste.
Il y a eu des victimes ce week-end. Il y a eu d'autres incidents auparavant. Il y a la situation de Boualem Sansal. Tout cela oblige le gouvernement français à ne pas fermer les yeux.
De quoi lui faire lancer un ultimatum aux autorités algériennes.
La France va demander que soit réexaminée la totalité des accords en donnant un mois, 6 semaines.
Pour lui, l'Algérie doit reprendre ses ressortissants expulsables en France en vertu des accords de 68. Déjà revus plusieurs fois, ils impliquent coopération migratoire, mais aussi des avantages aux Algériens souhaitant en venir en France avec leur famille pour vivre et travailler.
S'il n'y avait pas de réponse, au bout du chemin, la dénonciation des accords serait la seule issue possible. Ça n'est pas celle que nous souhaitons.
Quand son ministre de l'Intérieur l'appelait au rapport de force et celui des affaires étrangères à la diplomatie, François Bayrou fait le choix d'un ton mi-ferme, mi-diplomate.
Je le dis sans volonté de faire de l'escalade.
Son gouvernement a également annoncé des restrictions d'entrée en France pour des dignitaires algériens, ce qui est perçu par Alger comme de l'intimidation.
Raphaël Delvolvé. Et puis plus largement, lors de ce conseil interministériel, François Bayrou a annoncé une plus grande militarisation des frontières de la France pour renforcer la lutte contre l'immigration illégale. De son côté, le président Emmanuel Macron reçoit ce soir le conservateur allemand Friedrich Merz pour un dîner à l'Élysée. Friedrich Merz qui devrait devenir chancelier après la victoire de son camp aux législatives de dimanche. Une rencontre inhabituellement rapide après ces élections, mais selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, Emmanuel Macron intègre très tôt son futur interlocuteur allemand dans la diplomatie en cours. Emmanuel Macron qui veut rapidement relancer le couple franco-allemand alors que l'Europe fait face au rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Emmanuel Macron qui est en baisse dans les sondages. Sa cote de confiance recule de 2 points par rapport à décembre à 21%. Celle de François Bayrou perd elle 5 points et passe pour la première fois sous celle du président à 20%, soit son niveau le plus bas après 3 mois d'exercice.
24 heures en France.
Au procès de l'ex-chirurgien Joël Le Skouarnec, accusé de viol et d'agression sexuelle sur 300 patients mineurs, son ex-femme est entendue à la barre en ce moment. Audition très attendue depuis ce matin pour tenter de répondre à une question. Connaissait-elle les penchants pédocriminels de son mari? Baptiste Coulon, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de la cour criminelle du Morbihan à Vannes, où l'ancienne épouse de Joël Le Skouarnec a de nouveau assuré qu'elle n'avait rien su des agissements de son ex-mari.
Oui, c'est avec une voix éraillée, malade, qu'elle se présente à la cour. « Je n'ai jamais eu de doute », assure-t-elle sans trembler. Rapidement, le ton devient arrogant et souvent théâtral. Elle n'épargne pas sa propre famille, notamment l'une de ses nièces, agressée sexuellement par son ex-mari. « Elle a menti », dit-elle, avec un aplomb qui fige la cour. En 2017, face aux enquêteurs, elle était catégorique. Son mari allait sur des sites pédopornographiques. Elle plaide aujourd'hui l'amnésie. Loin d'être convaincue par ses explications, la cour passe la vitesse supérieure. Elle souhaite diffuser des images, en l'occurrence des photos à caractère sexuel d'enfants prises par Joël Le Squarnec. L'ex-épouse refuse, mais il y a des réalités auxquelles il faut faire face, tonne l'avocat général. « Ce n'est pas mon procès », répond-elle. Les images sont diffusées, elles détournent le regard. Joël Le Squarnec fait de même. Pour briser ce qui s'apparente à de la désinvolture et du déni, une avocate de victime tente l'opération de la dernière chance. « Vous voyez, toutes ces personnes, elles sont là à cause de votre ex-mari. Oui, elles sont victimes, comme moi. » Et la cour se fige une deuxième fois.
Merci Baptiste Coulon, en direct de Vannes dans le Morbihan. Autre procès, dont on a maintenant le verdict, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté incompressible contre le Tunisien Brahim Aouissaoui, accusé d'avoir assassiné 3 personnes dans la basilique de Nice en 2020. C'est la peine la plus lourde du code pénal. L'incompressibilité rend infime les chances d'une sortie. Une peine maximale rarissime, selon maître Régis Bergonzi, avocat des parties civiles.
Il n'y a rien dans le dossier pour être indulgent à l'égard de ce terroriste. On a beau chercher dans tous les sens, on peut aller chercher plus loin que loin, on peut essayer de faire monter les choses en épingle, il n'y a rien à en tirer. Donc là-dessus, le ministère public a insisté pour montrer que la décision était prise sans haine, avec réflexion, et est arrivée à cette conclusion où pour la première fois, le parquet national antiterroriste a pris des réquisitions pour que ce monsieur ne puisse plus jamais sortir. Donc c'est très très rare. Il y a déjà eu une personne condamnée pour terrorisme à cette peine incompressible, mais là c'est la première fois que le parquet le requiert, donc le sollicite.
Maître Régis Bergonzi au micro de Tatiana Avila. Jugement toujours, la Cour de cassation a annulé ce mercredi la condamnation en appel du Chilien Nicolas Cepeda à 28 ans de prison pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki, morte à Besançon en 2017. Le corps de la jeune fille n'avait jamais été retrouvé. Nicolas Cepeda sera donc jugé une troisième fois. RFI 23h07 à Paris. On se rend maintenant au salon de l'agriculture où 5 patrons de la grande distribution étaient côte à côte ce matin. Une image rare que l'on doit à la célèbre présentatrice de télévision Karine Le Marchand, qui a réuni 5 enseignes, Carrefour, Auchan, Casino, Intermarché et les magasins U. Si le numéro 1 Leclerc manque à l'appel, les autres enseignes se sont engagées sur 3 actions pour soutenir les agriculteurs. L'une d'elles vise à créer un label pour les agriculteurs les plus en difficulté. Un label qui leur permettra de vendre leurs produits dans les magasins après avoir eux-mêmes fixé le prix. L'idée est bonne, salue Guy Durand, mais cet éleveur du Vercors se méfie des promesses de la grande distribution, accusé de tirer les prix vers le bas, au détriment des paysans.
Des labels, il y en a tout plein. Des idées, il y en a tout plein. Elles sont toutes louables. Simplement, il faut qu'il y ait une charte, il faut que ce soit encadré. Aujourd'hui, les agriculteurs ont du mal à dire que la grande distribution est un allié. Comprenez bien que c'est pas mes ennemis, parce qu'on a besoin d'eux, hein. On peut pas faire autrement. Mais dire que c'est un allié, c'est compliqué quand même, parce que on est un petit peu otage de la grande distribution, et le client est otage de la grande distribution. Ceux qui craignent le moins, ils sont mieux, ils prennent le besoin qu'ils ont, et puis les autres, démerdez-vous. Mon problème, il est là, pour moi. Moi, je suis au départ de la chaîne, puisque je fabrique. Donc, souvent, c'est la grande distribution qui fait le prix. C'est pas le paysan qui fait le prix. Parce que ça saurait sinon, ou du moins il serait un peu plus riche et il serait pas en difficulté justement.
Guy Durand, éleveur du Vercors, au micro de Nicolas Feldman. Football, une bonne nouvelle pour Dunkerque en Coupe de France. Déjà tombeur de Lille en 8e de finale, l'autre club nordiste, 3e de Ligue 2, élimine encore un club de Ligue 1, Brest, qui plus est chez lui, pour accéder au dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 96 ans. Les Dunkerquois l'ont emporté 3-2 après avoir pourtant été menés 2-0. Une remontada effectuée notamment grâce à Opa Sangante, le doublé de l'international bissau-guinéen, entré à la 64e minute, a définitivement fait pencher la balance en faveur de son équipe. pour sa plus grande joie.
J'ai même pas de mots, c'est la première fois que j'ai disputé un quart de finale. Là, c'est moi qui permet à l'équipe de revenir à 2-2 et qui donne le 3-2. C'est exceptionnel, j'ai pas de mots. En tout cas, j'ai une petite pensée pour un ami que j'ai perdu il y a quelques jours. Donc je lui dédie mes deux buts, j'ai jamais mis de doublé dans ma carrière. Ce soir, je mets un doublé, c'est exceptionnel. Je pense que je vais pas oublier ce match. Et puis en plus, j'ai mon ami Mama Baldé, je pense qu'il est frustré, mais je vais pouvoir le chambrer parce que je lui disais que je vais marquer aujourd'hui et au final, j'ai marqué.
Mama Baldé, attaquant de Brest et compatriote d'Opa Sanganté. Football toujours, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a été suspendu 15 matchs fermes pour avoir violemment mis en cause l'arbitrage lors de la défaite de son équipe 3-0, c'était ce week-end à Auxerre. Christophe Diremzian, lors de la 23e journée de Ligue 1.
Oui, plus de 4 heures de réflexion pour aboutir à une sanction rare, mais à la hauteur de la colère ressentie par le corps arbitral. Et bien au-delà, samedi dernier à Auxerre, le match de l'OM tourne mal, un joueur voit rouge, et son président aussi hors de lui après l'expulsion du défenseur Derek Cornelius à la 63e minute. Déjà énervé auparavant par un pénalty refusé à un autre Marseillais, Pablo Longoria quitte sa place en tribune puis finit par craquer complètement à la fin du match dans les couloirs du stade de la Baie-des-Champs. Image à l'appui, il s'indigne martelant à plusieurs reprises le mot de corruption. L'indignation du football français est unanime. Le premier syndicat des arbitres saisit le comité national d'éthique et la commission discipline ne traîne pas pour convoquer le dirigeant espagnol qui essaie de calmer le jeu en faisant amende honorable. Lundi, dans un entretien à l'agence France Presse, il dit regretter ses propos. Son coup de sang, explique-t-il, ne serait que le résultat de trop nombreuses décisions arbitrales défavorables au club depuis le début de la saison. Mais pas de quoi susciter la clémence de la commission ce soir. Pablo Longoria ne verra plus son équipe au stade jusqu'au début de la saison prochaine. Il est également privé de toute fonction officielle au sein de la Ligue.
C'est noté. Merci Christophe Diremzian. RFI 23h11 à Auxerre.
24h en France. Christophe Paget.
Et on va maintenant au cinéma. C'est mercredi, le jour en France de la sortie des nouveaux films. Vous le savez, aujourd'hui, un documentaire à bicyclette. L'histoire d'un road trip de l'Atlantique à la mer Noire. À bicyclette, justement, dans lequel Mathias embarque son meilleur ami Philippe. Mathias, c'est le réalisateur du film. Et ce voyage a une dimension quasi existentielle puisque c'est celui que son fils avait entrepris avant de disparaître tragiquement. Sophie Torlotin a rencontré le réalisateur et comédien Mathias Melkuz.
Mathias Melkuz, bonjour.
Bonjour.
Après la mort de votre fils Youri, vous décidez de partir sur les traces d'un voyage qu'il a fait en vélo de France jusqu'à Istanbul en Turquie, en passant par l'Allemagne, l'Autriche, la Roumanie notamment. Vous y allez avec votre ami le comédien Philippe Rebaud. Le fait d'en faire un film, c'est venu dès le départ de cette aventure ?
Non, moi j'ai d'abord voulu refaire le voyage et j'ai voulu me mettre dans les pas de mon fils. Tout de suite après sa mort, j'ai commencé par des stages de clown. J'ai fait un voyage aussi au Brésil avec mon autre fils Joseph, justement sur les traces de Youri, puisqu'il avait été pendant 3 mois au Brésil. Et là, j'ai proposé à Philippe Rebaud de refaire le voyage en vélo. Et c'est lui qui a eu l'idée du film. C'est lui qui m'a dit, écoute, on est vieux, si on part comme ça sur des vélos, on va claquer, on n'ira pas plus loin que Dijon. Si on était sculpteur, on aurait fait une sculpture. Si on était romancier, on aurait fait un roman. Et tous les deux, on est comédien, toi t'es cinéaste, vas-y, on en fait un film.
Vous avez suivi les traces de Youri pas à pas. Il avait pris des photos et vous servez de cet album pour le suivre à la trace.
Oui, il avait un livre de voyage qu'il a édité à compte d'auteur pour la famille. Donc on avait un itinéraire et on avait des photos qu'il avait prises à droite à gauche, pas forcément référencées. Donc il y a eu un petit peu un jeu de piste pour savoir d'où venait cette photo, où elle était, à quel moment.
Non, j'ai trop mal, mec.
J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre.
Ah. On va pas s'arrêter là, les vieux.
J'en peux plus.
C'est la première fois que je fais un truc par amitié, vraiment.
Allez, allez, avance.
Mais ça passe pas.
C'est un film à bicyclette, Mathias Melkuz. C'est un documentaire qui tient à la fois du road movie, donc un genre très américain, hein, de filmer la route, des rencontres aussi que l'on fait, et puis du buddy movie, là, le film de copains, parce que vous ne cachez à rien de vos engueulades, par exemple, avec Philippe, de vos difficultés, des moments d'émotion, de rire aussi.
On a tenu à être toujours nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne jouait pas de personnage. Donc le film s'est conçu avec une seule prise toujours. On faisait des prises très longues, d'une heure et demie, mais on ne refaisait jamais deux fois, donc on n'a rien joué. On a improvisé. C'est compliqué de le définir en fait. Tout le monde dit c'est un ovni, on ne sait pas le caractériser. Alors moi je peux le caractériser comme documentaire fait par des comédiens, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de choses fictionnées. moi aussi des choses vraies, donc c'est un film de cinéma. Au montage, je me suis retrouvé avec une montagne de rush, et voilà, le film c'est plutôt conçu au montage.
Donc beaucoup de rush, c'est-à-dire, là le film il fait à peu près 1h30. Vous aviez un matériau immense ?
Oui, immense. Je crois qu'on a fini avec 150 heures de rush et 4 heures de scène montée. Donc.
Ce film à bicyclette, Mathias Mekuz, vous l'avez présenté dans différents festivals. Ce n'était pas votre premier long métrage. Vous avez déjà tourné un film comme réalisateur. Vous avez déjà tourné comme acteur dans différents films. Mais est-ce que vous sentez avec ce film-là un lien particulier avec le public ?
Oui, là pour le coup, c'est le public qui a sorti de l'ombre, j'allais dire, le film. En fait, le film n'avait pas de distributeur à la fin. Tout le monde nous a dit non. Et ce film a été mis en lumière grâce au Festival d'Angoulême. Et c'est à partir de la première projection à Angoulême que le public s'est emparé du film de façon extraordinaire. Ils nous ont d'ailleurs donné le prix du public. Même moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a fait un film beaucoup trop intime pour qu'il soit reçu. Et en fait, non. La réponse du public, c'était, ouais... Plus on est intime, finalement, plus on est universel et plus mon drame résonne chez chaque personne du public avec leur propre drame personnel, leur propre deuil.
Mathias Mlekuz, merci.
Merci à vous.
Mathias Mlekuz au micro de Sophie Torlotin, à bicyclette, est sorti ce mercredi en France. On va maintenant parler légumineuses. Déjà, petite définition, les légumineuses, ce sont ces légumes secs dont les graines sont contenues dans des gousses. Lentilles, pois cassés, haricots rouges. Les Européens en consomment trop peu, et pourtant elles sont bien pratiques. Les légumineuses permettent de revitaliser les sols, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et elles sont bonnes pour la santé humaine, animale, et aussi pour la santé des écosystèmes. Franchement, que demander de plus ? Alors, dans l'est de la France, en Alsace, des agriculteurs et des collectivités territoriales travaillent ensemble pour le grand retour des légumineuses dans les champs et dans les assiettes. Reportage Lucille Gimbert.
Face à nous, ici, là où on se trouve, donc juste à côté du hangar, une dizaine d'années en arrière, c'est vrai qu'on voyait du maïs à perte de vue. Et depuis 2021, maintenant, on a lancé Graines d'Alsace, donc la culture de légumineuses.
C'est la sécheresse de 2020 qui a poussé Grégory Axer et ses trois associés agriculteurs à se diversifier. Car dans les terres caillouteuses de la plaine d'Alsace, le maïs ne pousse qu'à grand renfort d'irrigation. Les lentilles, pois chiches et quinoa qu'ils ont introduits dans leur rotation de culture nécessitent, eux, de pomper beaucoup moins d'eau dans la nappe.
On le voit déjà rien que sur le gasoil pour nos groupes qui alimentent les irrigations, où là, il y a besoin de déjà moins de gasoil.
Autre bénéfice économique et environnemental, ils achètent moins d'engrais d'azote de synthèse, car les légumineuses fixent naturellement l'azote dans le sol.
L'azote dans le sol, c'est un petit peu comme ce que nous on a le midi et le soir dans l'assiette, c'est vraiment ce qui donne à manger à la plante. Et ce gain-là, dû aux légumineuses, on va retrouver ça 2 voire 3 ans encore après sur la même parcelle.
Les agences locales de l'eau et de la santé se réjouissent aussi qu'ils cultivent sans pesticides. Même si leurs prix sont donc plus élevés que ceux des légumes secs importés, les clients répondent présents.
2023, on était sur 7 tonnes de vendus à l'année. 2024, on a frôlé les 20 tonnes. C'est bon, chef ?
Moi, tout est bon.
Comme là.
Avec l'aide de collectivités territoriales, les 4 compères ont même monté la filière légumineuse dans la région. Une dizaine d'agriculteurs les ont déjà rejoints.
Alors là, on ouvre le sac, on va le mettre sur la balance. Et Olivier va commencer à remplir. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir nos 5 kilos de pois chiches.
Olivier Hiss, l'un des associés fondateurs.
Au début, tout le monde nous a pris pour des fous, tous les agriculteurs des villages aux alentours. Et en fait, c'est comment dire, une consommation de l'avenir dans les 10 ans qui viennent déjà. Faire une nouvelle culture, c'est vrai que ça fait du stress, oui, mais c'est aussi une fierté. Tu te dis, t'as réussi quelque chose parce que les gens, ils viennent vers toi.
À l'autre bout de la chaîne, l'Eurométropole de Strasbourg encourage cette nouvelle filière locale en servant davantage de légumineuses dans les cantines scolaires. L'élu Antoine Neumann est en charge des questions agricoles et alimentaires.
Plus de la moitié de la surface agricole de la métropole de Strasbourg est occupée par du maïs. Il nourrit même pas des animaux, celui-là. Il sert à faire des plats transformés, à faire des biscuits apéritifs, des sodas. On nourrit pas les gens avec ça. Donc il y a un gros enjeu à reproduire des choses qu'on mange et pas des choses pour favoriser le diabète, l'obésité ou des choses comme ça.
Apprendre à aimer les légumineuses, source de protéines, c'est aussi s'ouvrir à une alternative à la viande et ainsi réduire l'empreinte carbone de son assiette.
Un reportage dans l'Est de la France de Lucille Gimbert.
Le journal des Outre-mer.
Et cela n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Tous les groupes politiques de la Nouvelle-Calédonie se sont retrouvés ce mercredi autour d'une même table. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Cela s'est passé dans les locaux du Haut Commissariat de la République, en présence, bien sûr, du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. L'ambiance était, paraît-il, plutôt bonne et l'espoir bien présent. Écoutez d'ailleurs le député Nicolas Metzdorf de l'intergroupe des loyalistes et Milakulo Tukumoli de l'éveil océanien, tous les deux au micro de Natacha Lassos-Cognard.
Un état d'esprit constructif aujourd'hui, satisfait que tous les groupes politiques soient autour de la table. Je pense que la situation économique et sociale fait que tout le monde se sent en responsabilité. Et l'idée, c'est de trouver une solution, évidemment. Donc on va aborder les trois thèmes qu'a proposé le ministre avec détermination, avec esprit constructif, avec la volonté, évidemment, de trouver un compromis politique. Donc on verra ce qui se passe à l'intérieur, mais on est déterminé à trouver une solution pour les Calédoniens et pour la Nouvelle-Calédonie.
Je crois que tout le monde vient avec un état d'esprit pour avancer, puis on verra au fur et à mesure si on arrive à aller jusqu'au bout. Mais état d'esprit assez positif, voilà, pour l'ensemble des délégations, pour nous en particulier, voilà.
Les échanges autour du ministre se sont poursuivis dans l'après-midi, mais cette fois-ci en version bilatérale, chaque mouvement politique étant reçu séparément. Faisons le point à 17h local, 7h ce matin en heure de Paris, avec Johanna Robin.
Pour l'instant, personne ne s'exprime ni en entrant ni en sortant du Haut Commissariat. Tout ce que l'on sait, c'est que les réunions durent à peu près une heure pour chaque groupe reçu par le ministre des Outre-mer. L'UCF, LNKS et nationalistes sont sortis les premiers vers 15h45. Si aucun élu n'a souhaité faire de commentaires, le groupe indépendantiste se dit suffisamment satisfait pour revenir ce soir, lorsque les trilatérales reprendront. Là, les groupes loyalistes viennent d'arriver avec le rassemblement. Il ne restera plus donc que Calédonie Ensemble et l'éveil océanien. En tout cas, même si on ne connaît pas la teneur exacte des discussions, on peut dire que Manuel Valls a d'ores et déjà réussi une partie du défi, celui de remettre tout le monde autour d'une même table, ce qui n'était pas arrivé depuis le dernier référendum en 2021.
Manuel Valls qui devait repartir vendredi et qui restera finalement sur le caillou jusqu'à samedi soir. En bref, l'île de la Réunion sera placée ce jeudi en alerte rouge suite à l'approche menaçante du cyclone Garance, cyclone qui était situé ce mercredi à 17h à 370 km dans le nord-nord-ouest du département de l'océan Indien. La Guadeloupe, pour terminer, comment lutter efficacement contre les violences dans et aux abords des établissements scolaires de Pointe-à-Pitre? La question était au centre mardi d'une réunion du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. L'une des réponses, ou tentatives de réponse, va plus particulièrement cibler les parents. Reportage Pascal Pétrine.
Le constat est quasiment le même pour l'ensemble des établissements de Pointe-à-Pitre. Les dispositifs existants jugulent les phénomènes de violence au sein des établissements, mais c'est bien de l'extérieur et à l'extérieur que le danger reste omniprésent, ce qui conduit à l'augmentation significative du nombre de sanctions d'expulsion d'élèves pour des faits de violence. C'est le cas au collège Michelet où 69 d'entre eux ont été sanctionnés depuis le début de l'année scolaire. C'est deux fois plus qu'il y a deux ans. Sarah Béral, principale du collège Michelet.
L'exclusion fait partie des outils dont nous disposons en établissement scolaire pour pouvoir marquer des limites, mais c'est vrai que c'est toujours vécu par le chef d'établissement comme un peu un échec.
C'est pourquoi il faut aussi replacer les parents dans le jeu éducatif. Caroline Calbo, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre.
La question de la parentalité, la question des autorités aussi, de l'autorité sur les enfants, quelles valeurs aussi on veut transmettre, et la question de la non-violence. Il y a plein de dispositifs que certains ne connaissent pas, et donc c'est important de pouvoir échanger et d'aborder collectivement, justement, de trouver des nouvelles idées. Je pense notamment au Conseil des droits et des familles, qu'il faut peut-être réactiver. Il y a la convention de rappel à l'ordre.
Une convention signée par le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel.
En vertu de cette convention, le maire va pouvoir convoquer les enfants qui sont responsables d'incivilité et en mairie, dans un lieu où solennellement l'enfant va entendre se faire rappeler la loi. Et où les parents aussi vont être remis face à leurs responsabilités.
Au final, outre l'activation de l'ensemble des dispositifs existants pour accompagner les acteurs de l'éducation, la municipalité s'est engagée à long terme dans un projet novateur de création d'une maison de la non-violence pour agir en profondeur et changer l'approche face à une violence du quotidien toujours plus exacerbée.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée Benoît Ferrand.
Le conseil santé avec Sumo Assurance.
Et si vous êtes sur les genoux, cette chronique est pour vous. Caroline Paré s'intéresse avec son invité à la santé des genoux au quotidien.
Docteur Patrick Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien orthopédiste et traumatologue à la clinique Nollet à Paris. Quels sont les conseils essentiels pour préserver la santé des genoux?
Alors, c'est très intéressant comme question, c'est-à-dire que ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est d'avoir une activité physique régulière, tous les jours donc, de façon à entraîner effectivement la mobilisation des articulations, notamment du genou, et éviter autant que faire se peut les blessures. Donc, on recommande de marcher déjà, c'est déjà une très bonne activité. Aujourd'hui, on est la plupart du temps sédentaire, et la marche est une excellente activité qui permet d'entraîner ses genoux, et l'activité sportive, bien sûr, encadrée de façon tout à fait modérée, je dirais, pas en excès, permet effectivement d'avoir et de prévenir les problèmes au niveau des genoux.
Est-ce qu'il y a des mises en garde particulières pour les sportifs là qui ont une activité très intense ?
Oui, il y a une activité qui doit être régulière au cours de la semaine, avec des entraînements réguliers, un échauffement qui paraît important, et l'échauffement est relativement fait de manière récurrente, et surtout, après l'activité sportive, un temps de repos et d'étirement de façon à éviter les problèmes.
Merci Docteur Jean, aujourd'hui dans Priorité Santé. Quand l'addiction fragilise la famille, au-delà du retentissement pour la personne dépendante, l'addiction peut miner l'environnement familial. Comment les proches peuvent-ils accompagner la prise en charge, mieux comprendre aussi ces mécanismes de l'addiction, et auprès de quels soignants ou structures rechercher un soutien? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
C'est bien noté Caroline Paré, et à tout à l'heure. Santé toujours. Hommes et femmes ne sont pas égaux face à l'alcool et les professionnels de santé doivent y être sensibilisés. C'est ce qu'explique aujourd'hui la Haute Autorité de Santé. Car l'alcool entraîne chez les femmes des dommages plus graves, plus rapides ou plus spécifiques, comme le cancer du sein. Mais ces risques ne sont pas assez évalués et accompagnés au plan médical, estiment les autorités de santé. RFI bientôt, la fin de 24 heures en France. Merci à Arthur Geoffroy à la réalisation et à Nicolas Brousse à la rédaction en chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir. Avant cela, la bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
La tendance initialement positive à Wall Street s'est retournée dans la matinée. Le Dow Jones chute finalement de 187 points pour revenir à 43 434. Le Nasdaq tout de même arrache de justesse 49 points. Et clôture à 19 075, plusieurs grands noms de la technologie sont tout de même repartis à la hausse, notamment Nvidia, qui d'ailleurs est la plus forte hausse parmi les 30 valeurs du Dow Jones aujourd'hui. Les investisseurs ont parié sur l'annonce, après la clôture, de résultats trimestriels solides pour Nvidia, société phare du secteur de l'intelligence artificielle, car elle fabrique des composants électroniques qui permettent d'accélérer plus que les composants des sociétés concurrentes, les énormes traitements de données nécessaires aux applications d'intelligence artificielle. D'autres valeurs, souvent d'ailleurs de sociétés qui achètent de grandes quantités de composants à Nvidia, sont en hausse, Oracle, Meta Platforms par exemple. On note par ailleurs la hausse du cours de General Motors, le numéro 1 américain de l'automobile, augmente son dividende de 25%, autorise un programme de rachat de ses actions sur le marché de 6 milliards de dollars. Le rendement du T-bond à 10 ans tombe à 4,25, toujours sur l'impression que la demande aux États-Unis est en train de faiblir. La menace de droits de douane de 25% sur les produits venus d'Union européenne, à compter du 2 avril, proférée aujourd'hui par le président Trump, entretient le malaise de certains investisseurs. L'euro, d'ailleurs, chute à 1,0486. Le pétrole américain reste proche de 69 dollars le baril. Le Dow Jones rend 0,4%. Le Nasdaq arrache 0,3%.
Merci Pierre-Yves Dugas. Vous le savez, dans quelques instants, c'est la dernière édition d'Afrique Soir. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur internet www.rfi.fr.
24 heures en France. Sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Que vous aimiez le cinéma ou le stand-up, la littérature ou le rap, la peinture ou les séries télé, je vous donne rendez-vous tous les jours sur le Pont des Arts. 50 minutes ensemble avec nos correspondants et nos chroniqueurs pour découvrir, partager, s'émerveiller.
Sur le Pont des Arts avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.
Appel sur l'actualité est à Cotonou. Juan Gomez.
Le Bénin célèbre le 35e anniversaire de sa conférence nationale souveraine, un rendez-vous historique qui a permis au pays de jeter les bases de la démocratie et qui fut copié dans de nombreux pays d'Afrique. Racontez-nous comment s'est déroulée la conférence nationale dans votre pays. Trois décennies après, les acquis sont-ils préservés?
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.